Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Si soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, sur le polycopier de l'étude de la Somme théologique, regardez du côté de la page 148, ce n'est pas tout, mais vous avez certains passages qui peuvent vous aider à suivre le cours. Donc nous en sommes dans la tertia pars, troisième partie de la Somme, à la question 44, les diverses catégories de miracles du Christ. Je vais passer rapidement à cette question 44 qui est relativement secondaire, pour m'arrêter plus sur les questions plus importantes. Alors, Saint Thomas se pose d'abord la question des miracles opérés par le Christ sur les substances spirituelles. Donc, je vous donne simplement quelques passages. Encore une fois, c'est une question relativement secondaire. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles pour venir à l'appui de la foi qu'il enseignait. C'est ce que dit Saint Thomas, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé sa divinité de deux façons. D'abord en remplissant toutes les prophéties de l'Ancien Testament, et ensuite en faisant des miracles. Donc, entre autres, il a fait des miracles sur, comme dit Saint Thomas d'Aquin, sur les puissances spirituelles. Puissances spirituelles, les substances spirituelles, pardon. Substances spirituelles, c'est surtout les démons. Il était bon qu'entre autres miracles, il délivre les hommes esclaves du démon, pour bien montrer qu'il était maître aussi des substances spirituelles. Le démon ne savait pas avec certitude que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Il avait un doute, mais il n'avait pas la certitude. Le diable, voyant notre Seigneur fatigué par le jeûne, comprit qu'il était réellement un homme. Mais parce qu'il n'avait pu le vaincre par la tentation, il se demandait s'il était le Fils de Dieu. Mais il n'a jamais eu cette certitude absolue. S'il avait su que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu et que par sa mort sur la croix il enchaînerait le démon n'aurait jamais fait crucifier par les Juifs, ça c'est sûr que non. Alors notre Seigneur Jésus-Christ en tant que créateur du ciel et de la terre a pouvoir sur toutes les sphères de la création. Il a aussi pouvoir, nous dit Saint Thomas, sur les corps célestes, par exemple les étoiles. On le voit très bien en Saint-Luc chapitre 23, la fin de la Passion. Les ténèbres s'étendirent sur la terre jusqu'à la neuvième heure et le soleil s'obscurcit. Ça, c'est un miracle voulu par le bon Dieu. Mais Saint Thomas continue de descendre dans les échelles, si vous voulez, des créatures de Dieu, pour s'occuper maintenant des miracles accomplis sur les hommes. Et là encore, il dit, il était bon que le Christ guérisse miraculeusement, certains hommes en particulier, afin de montrer qu'il est le sauveur universel et spirituel. Personne ne peut être sauvé sans lui. Le Christ, par sa vertu divine, a donc justifié les hommes intérieurement, mais non malgré eux. Et cela n'est pas un miracle, mais c'est le but auquel sont ordonnés les miracles. Donc les miracles, c'est, si vous voulez, pour aider les hommes qui ont leur libre arbitre à accepter d'être sous la puissance du bon Dieu. Le bon Dieu ne fait pas un miracle sans exiger d'abord la foi. À chaque fois qu'il fait un miracle, on voit bien dans l'évangile, il commence toujours par demander « Croyez-vous que je peux le faire ? Avez-vous la foi ? Je crois, Seigneur, mais augmentez ma foi. » De tout cela, il ressort que le Christ, quand il voulut, changea les âmes des hommes, non seulement en les justifiant et en y infusant la sagesse, ce qui est le but même des miracles, mais aussi en agissant extérieurement par un attrait, une terreur ou une stupéfaction qui relève du miracle. On voit très bien l'équilibre de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à sa création. Il y a également des miracles sur des créatures dépourvues de raison. Il appartient à la puissance divine que toute créature lui soit soumise. C'est pourquoi il fallait qu'il fasse des miracles sur toutes les catégories de créatures, et non seulement sur les hommes, mais aussi sur les créatures dépourvues de raison. Par exemple, au moment de la Passion, le voile se déchira pour montrer que les mystères de la loi étaient dévoilés. Les tombeaux s'ouvrirent pour montrer que par sa mort, les morts recevaient la vie. La terre trembla et les rochers se fendirent pour montrer que les cœurs de pierre des humains seraient attendris par sa passion, et que par la vertu de sa passion, le monde entier allait s'améliorer. Je crois que c'est Saint-Augustin qui fait remarquer que les rochers s'ouvrent, tremblent, les tombeaux s'ouvrent, le voile se déchire, mais il n'y a que les cœurs de pierre des humains qui, eux, ne s'ouvrent pas et ne tremblent pas. Pourquoi ? Parce que les voiles, les tombeaux, les rochers et les pierres ne sont pas des substances avec une âme, donc avec un libre arbitre, ce sont des substances purement matérielles. Donc elles sont obligées d'obéir à la loi du bon Dieu, à ce que leur demande le bon Dieu. Le bon Dieu ne demande pas à un rocher de s'ouvrir, à un tombeau de s'ouvrir, en lui demandant sa permission. Mais le bon Dieu ne va pas ouvrir un cœur humain sans une participation de ce cœur au miracle du Christ de façon habituelle. Certes, il peut y avoir des cas où on a l'impression que la liberté humaine disparaît, mais c'est faux. Même dans par exemple la conversion de Saint Paul ou la conversion d'un Saint Augustin, eh bien, il y a une participation du libre arbitre. Alors, passons à la question 45, la transfiguration du Christ. Pour voir pourquoi, que représente cette transfiguration et en quoi cette transfiguration est-elle importante. Donc, premier article de la question 45, est-ce qu'il était convenable que le Christ soit transfiguré? Voilà ce que répond notre Seigneur. Il convenait qu'il montre à ses disciples sa gloire lumineuse, qui est sa transfiguration, à laquelle il configurera les siens. C'est-à-dire que par sa transfiguration, j'ai souvent expliqué ça dans mes sermons, notre Seigneur Jésus-Christ dévoile sa divinité, une partie de sa divinité. Donc en soi, ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est que notre Seigneur cache sa divinité. Il est Dieu tout le temps, donc il aurait dû constamment dévoiler sa divinité. Mais on voit très bien au moment où il dévoile une toute petite partie de sa divinité au sommet du mont Tabor, les trois apôtres qui étaient là, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, ils paniquent complètement, ils tombent la face sur le sol, complètement paniqués par ce qu'ils voient. Parce que nul ne peut voir Dieu ici-bas dans sa divinité sans mourir. Donc cette transfiguration représente, manifeste justement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc par cette transfiguration et ensuite après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur va avoir un corps glorieux et il va à ce moment-là manifester ce qu'on appelle les privilèges des corps glorieux. Il y en a quatre. La clarté, cette luminosité, par exemple qu'on voit la transfiguration. Cette agilité qui permet à notre Seigneur Jésus-Christ de marcher sur les eaux de la mer, par exemple, la subtilité et l'impassibilité. Et on voit dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ ces quatre choses, même avant sa résurrection. Par exemple, la clarté est vue à la transfiguration, encore une fois. L'agilité, je viens de vous le dire, quand il a marché sur les eaux de la mer, la subtilité, quand il est sorti intact du sein de la Vierge Marie sans violer le sceau virginal de la virginité de Notre-Dame, et l'impassibilité quand il a échappé indemne aux mains des Juifs qui voulaient le précipiter d'une hauteur ou le lapider. Alors, saint Thomas se pose la question de savoir si cette lumière de la transfiguration était la lumière de gloire. Et voilà ce qu'il va répondre. Cette clarté que le Christ a revêtue dans sa transfiguration était la lumière de gloire quant à son essence, mais non quant à son mode d'être. En effet, dit-il, la clarté du corps glorieux dérive de la clarté de l'âme. Et pareillement, la clarté du corps du Christ transfiguré dérive de sa divinité et de la gloire de son âme. Car si, dès le début de la conception du Christ, la gloire de son âme ne rejaillissait pas sur son corps, cela venait d'un plan divin afin qu'il puisse accomplir les mystères de notre rédemption dans un corps passible. Il ne faut pas oublier que même au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il est toujours Dieu. Ce n'est pas Dieu qui meurt. C'est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas mourir. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, même alors qu'il est en train de mourir sur la croix, dans des souffrances épouvantables, a la vision béatifique. Seulement, il va faire un miracle pour que la gloire de cette vision béatifique ne rejaillisse pas sur son corps, afin que son corps puisse souffrir. Il y en a qui ont dit, il y a des hérétiques qui disaient que notre Seigneur Jésus-Christ est en Dieu, il n'est pas possible qu'il puisse souffrir, donc il n'a pas souffert, il a donné l'impression de souffrir, mais pas du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ a réellement souffert. On voit bien, par exemple, la flagellation a été une véritable boucherie. Le resplendissement corporel dans un corps glorieux je reprends la phrase là, pour bien expliquer. Cela n'enlevait pas au Christ le pouvoir. Attendez, j'ai oublié une partie, donc je reprends la partie pour être sûr que vous comprenez bien ce que je veux dire, enfin ce que saint Thomas explique. Donc dès le début, je reprends, dès le début de la conception du Christ, la gloire de son âme ne rejaillissait pas sur son corps. Cela venait d'un plan divin afin qu'il puisse accomplir les mystères de notre rédemption dans un corps passible. Ça, on a déjà expliqué. Ensuite, voilà ce que dit saint Thomas. Cela n'enlevait pas au Christ le pouvoir de faire dériver sur le corps la gloire de l'âme. Et c'est ce qu'il fait quant à la lumière de gloire dans la transfiguration, mais d'une autre manière que dans un corps glorifié. Car sur un corps glorifié, la clarté rejaillit venant de l'âme, comme une qualité qui affecte le corps d'une façon permanente. Aussi, le resplendissement corporel dans un corps glorieux n'est-il pas un miracle? Mais, dans la transfiguration, la clarté a dérivé de sa divinité et de son âme sur son corps, non comme une qualité permanente affectant le corps lui-même, mais plutôt par mode de passion transitoire, comme lorsque l'air est illuminé par le soleil. Aussi, ce resplendissement qui apparut alors dans le corps de Christ était-il miraculeux comme sa marche sur ses eaux. Donc, ce que veut dire saint Thomas, c'est qu'en soi, que Dieu manifeste sa divinité n'est pas quelque chose de miraculeux puisqu'il est Dieu. Étant Dieu, il est parfaitement normal qu'il manifeste cette divinité par une lumière de gloire. Mais Dieu, encore une fois, va cacher cette lumière de gloire pour que les gens comprennent qu'il n'est pas simplement Dieu, mais qu'il est aussi homme. Et n'accuse pas l'homme, Dieu, d'avoir masqué ses souffrances, d'avoir caché ses souffrances, en prétendant souffrir vraiment, alors que à cause de sa divinité, il ne souffrait pas. En fait, je vais expliquer que sa divinité ne détruisait en rien l'humanité de notre Seigneur. Ce n'est pas un mélange, tu vois, entre Seigneur Jésus-Christ de la divinité et de l'humanité. La divinité est parfaite, l'humanité est parfaite. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ souffre parfaitement comme aucun homme, comme tous les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il a possédé miraculeusement ce qui relève de ses propriétés. Alors, avançons dans les explications de saint Thomas. Donc, la lumière de gloire de saint Thomas, la lumière de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on voit pendant la transfiguration symbolise les justes qui vont s'unir à lui. On va, en quelque sorte, être incorporé, comme par osmose, à la lumière de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quant à la nuée lumineuse, elle symbolise la gloire du Saint-Esprit. J'ai parfois un petit peu de mal, vous avez dû vous en rendre compte, à comprendre le texte français que j'utilise, qui vient de la Revue des Jeunes. Je me suis aperçu, mais trop tard malheureusement, que cette traduction est loin d'être parfaite. Il y a des choses qui sont mal traduites, des expressions qui sont mal traduites, et je regrette, mais maintenant c'est trop tard, je regrette de ne pas avoir fait tout ce cours en utilisant une autre traduction, comme celle de Drioux par exemple, qui est bien meilleure. Enfin, je travaillais avec ce que j'avais. À l'époque, j'ignorais que la traduction de la Revue des Jeunes n'était pas excellente. Il y a des passages qui sont mal traduits, ça c'est sûr et certain. Question 45, article 3, on avance. Voyons un petit peu maintenant les témoins de la transfiguration. Donc le Christ a voulu être transfiguré pour montrer sa gloire aux hommes et les provoquer à la désirer. Il était justifié que parmi ses témoins soient présents quelques-uns de ceux qui l'avaient précédé, Moïse et Élie, et de ceux qui le suivaient, Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ? Parce que Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean sont les témoins privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Il aime tous les apôtres, mais les apôtres qu'il aime plus. Saint Pierre parce qu'il deviendra le premier pape, Saint Jacques parce qu'il sera le premier martyr parmi les apôtres, et Saint Jean parce que Saint Jean était l'unique apôtre qui n'avait jamais été marié. Alors avançons. Voyons un petit peu la raison aussi de la présence de Moïse et d'Élie. Moïse, c'est la loi, Élie, c'est les prophètes. Hein. Donc, ici, saint Thomas va citer saint Jean Chrysostome, disant que Moïse et Élie entrent en scène pour de multiples raisons. Voilà ce que va dire saint Thomas, c'est très intéressant. D'abord, parce que les foules disaient qu'il était Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, le Christ amène avec lui les chefs de file des prophètes, afin qu'au moins par là apparaisse la différence entre les serviteurs et le Seigneur. Donc, en apparaissant entouré d'Élie et de Jérémie, notre Seigneur Jésus-Christ fait clairement comprendre aux apôtres, je ne suis pas Élie ressuscité, je suis le Seigneur des serviteurs. Deuxièmement, parce que Moïse a donné la loi, tandis qu'Élie fut le zélateur de la gloire divine. Aussi, la présence avec le Christ exclut la calomnie des Juifs qui accusaient le Christ de transgresser la loi et de blasphémer en s'appropriant la gloire de Dieu. Troisième raison, Moïse et Élie entrent en scène afin de montrer qu'il a pouvoir sur la mort et sur la vie et qu'il est juge des vivants et des morts par le fait même qu'il amène avec lui Moïse déjà mort et Élie toujours vivant. Vous savez qu'Élie n'est pas mort, c'est un peu un mystère, on ne sait pas exactement où il est. Élie est monté au ciel sur un char de feu et il reviendra à la fin des temps pour combattre l'Antéchrist. Mais on ne sait pas actuellement où il est, mais toute la tradition nous dit qu'Élie n'est pas mort. Quatrième raison. Pour fortifier le cœur de ses disciples à ce sujet. Il met en scène ceux qui se sont exposés à la mort pour Dieu, car c'est en risquant la mort que Moïse est présenté devant le Pharaon et Élie devant le roi Akab. Cinquième raison, notre Seigneur voulait inviter ses disciples à imiter la douceur de Moïse et le zèle d'Élie. Enfin, sixième raison, afin de montrer que lui-même avait été annoncé par la loi que donna Moïse et par les prophètes dont le principal fut Élie. Donc il y a une espèce de ligne continue depuis Moïse, donc qui a reçu la loi au sommet du mont Sinaï, et Élie, qui est le plus grand des prophètes. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va suivre. Mais à montrer qu'il y a une continuation, si vous voulez, entre notre Seigneur Jésus, entre Moïse, puis Élie, puis notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ venant en quelque sorte récapituler tout ce qui avait été enseigné auparavant. Alors, saint Jean Chrysostome aussi explique pourquoi notre Seigneur a choisi ses trois disciples. Je vous ai déjà donné une explication. Voilà le texte de saint Jean Chrysostome. Il prit les trois disciples, en fait il veut dire ici les trois apôtres, hein, les plus importants. Car Pierre fut éminent par l'amour qu'il portait au Christ, et aussi à cause du pouvoir qui lui fut confié, deviendra le premier pape. Jean, par le privilège de l'amour dont le Christ l'aimait à cause de sa virginité et à cause de la supériorité doctrinale de son évangile. Donc, saint Jean avait une âme plus pure que les autres parce que justement, il n'avait jamais été marié. Jacques, saint Jacques, à cause de la primauté que lui conférerait son martyr. Oui, on voit très bien dans ce passage, entre autres, que notre Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il aime tous les disciples et tous les apôtres, ne les aime pas tous au même degré. Il n'est pas obligé, contrairement à ce que disent les gens modernes, il n'est pas du tout obligé d'aimer tous les apôtres de la même façon. C'est même valable en famille. Ça peut étonner ce que je vais dire, mais c'est pourtant, vraiment, je pense, la vérité, c'est qu'un père de famille et une mère de famille sont obligés d'aimer tous leurs enfants. Mais il y a certains de leurs enfants qui doivent aimer de façon un peu différente. Un enfant qui est beaucoup plus difficile, par exemple, doit être aimé plus que les autres enfants. Un enfant qui a certaines difficultés dans un certain temps de sa vie doit être pendant ce temps plus aimé par ses parents. Vous voyez ? Donc, c'est pas parce que des parents accordent à certains enfants certaines choses que ça veut dire qu'ils sont obligés d'accorder ces choses à d'autres enfants parce que chaque enfant est différent. Voyons maintenant l'importance de cette voix du Père qui apparaît pendant la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. Donc l'adoption, ce que dit saint Thomas, l'adoption des fils de Dieu se fait par une certaine image qui les rend conformes aux fils de Dieu par nature. Cela se fait d'une double manière. D'abord par la grâce du voyage, qui donne une conformité imparfaite. La grâce du voyage, c'est la grâce du viateur, c'est celui qui est encore en vie, ici-bas sur la terre. Ensuite, par la gloire de la patrie, qui donnera une conformité parfaite. C'est-à-dire, nous serons, quand Dieu le Père dit, celui-ci, mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toutes mes complaisances, suivez-le. Bon, suivez-le aujourd'hui d'une façon imparfaite, parce que vous êtes encore un viateur, donc encore ici-bas en voyage, afin un jour de le suivre de façon beaucoup plus parfaite, beaucoup plus totale, une fois que vous serez dans la gloire de la patrie au ciel. De même, alors reprenons le texte ici. Voilà le texte en la réponse à la deuxième objection, une chose intéressante dans ce que dit saint Thomas. Dans la transfiguration, dit-il, qui est le sacrement de la seconde régénération, du deuxième baptême en quelque sorte, toute la Sainte Trinité apparaît. Le Père par sa voix, le Fils en tant qu'homme, et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. De même qu'au baptême, il donne l'innocence, symbolisé par la simplicité de la colombe, de même à la résurrection, il donnera à ses élus la lumière de gloire et le rafraîchissement contre tout mal dont la nuée lumineuse est la figure. Donc derrière la transfiguration apparaissent les trois personnes de la Sainte Trinité. Alors nous continuons dans la vie de notre Seigneur, avec une autre partie. Cette fois-ci, c'est la question 46 que nous commençons maintenant. Alors là, ça va être la partie très belle sur la passion du Christ. Il y a des choses splendides. Donc, je vais insister davantage sur certaines parties de ce traité du Verbe incarné. Certainement, dans le traité sur la passion, qui est un sous-traité du Verbe incarné, donc dans le Verbe incarné, vous avez toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, vont apparaître, si vous voulez, plus les qualités, pas simplement les qualités d'exégète de saint Thomas, mais les qualités de cœur de saint Thomas. Il va, avec un cœur théologique, je dirais, il va avec un cœur théologique nous expliquer justement le pourquoi de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et le pourquoi de notre amour pour lui que nous devons lui rendre. Donc, question 46. Question importante, il y a 12 articles. La question, c'est sur la passion du Christ. Alors, article 1, était-il nécessaire que le Christ souffrit pour délivrer les hommes? Ah, voilà la réponse de saint Thomas. La souffrance du Christ n'a pas été nécessaire d'une nécessité de contrainte, ni de la part de Dieu qui a décidé cette souffrance, ni de la part du Christ qui a souffert volontairement. Mais elle a été nécessaire en raison de la fin. C'est-à-dire, Dieu aurait pu sauver les hommes autrement que par la passion ou la souffrance. Dieu en soi, étant Dieu, peut tout faire. Il aurait pu nous sauver tous les matins en nous offrant une rose tous les matins. Ça aurait été beaucoup plus facile. Cependant, s'il a voulu choisir la passion pour nous sauver, c'est que cette décision était la meilleure. Mais il aurait pu nous sauver d'une autre façon. Donc cette nécessité de souffrir, la souffrance du Christ a certaines raisons. Donc saint Thomas va expliquer pourquoi cette souffrance était nécessaire en raison de la fin. F-I-N. Il va donner trois raisons. La première, par rapport à nous qui avons été délivrés par la passion. Il cite saint Jean, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxièmement, par rapport au Christ lui-même, par l'abaissement de sa passion. Il a mérité la gloire de l'exaltation. Et ici, de saint Luc, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans la gloire? Enfin, par rapport à Dieu, il fallait accomplir ce qu'il avait décidé touchant la passion du Christ, prophétisée dans l'Écriture et préfigurée dans l'Ancienne Loi. Il Donc il cite Saint Luc de nouveau, c'est là ce que je vous disais étant encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Car il était écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Donc, que l'homme, si vous voulez, soit délivré par la passion du Christ, même si en soi, encore une fois, Dieu aurait pu nous sauver d'une autre façon, que l'homme soit délivré par la passion du Christ, cela convenait à la justice et à la miséricorde du Christ. Ça, c'est très beau ce que dit saint Thomas, voilà ce qu'il précise. Cela correspondait à la justice de Dieu, parce que le Christ, par sa passion, a satisfait pour le péché du genre humain, et ainsi l'homme a été délivré par la justice du Christ. N'oubliez pas que le péché étant quelque chose en soi d'infini, c'est un mal infini, puisque on met dehors le bon Dieu lui-même de notre âme. Donc, étant un mal infini, le péché ne pouvait être réparé que par un être infini. Le sacrifice d'un être infini. Cet être infini, c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui est infini. Mais ce sacrifice de la passion du Christ convenait aussi à la miséricorde. Parce que l'homme ne pouvant par lui-même satisfaire pour le péché de toute la nature humaine, Dieu lui a donné son Fils pour épérer cette satisfaction. Donc, notre Seigneur s'est substitué à nous en quelque sorte. Nous n'étions pas capables de satisfaire pour le péché. Pourquoi ? Parce que le péché est infini. Et donc l'homme, qui est d'une nature finie, ne peut pas rattraper un mal infini. Donc il fallait qu'un être infini vienne rattraper le mal infini commis par un homme de nature finie. Et c'est Dieu qui prend notre place justement pour souffrir pour nous, alors qu'il est innocent. Il souffre pour nous qui sommes coupables. Article 2, la question 46, y avait-il une autre manière possible de délivrer les hommes ? Il reprend un petit peu la même question, mais avec certaines précisions. Et donc, j'ai déjà répondu, en expliquant le texte de saint Thomas, à parler simplement et absolument, il était possible que Dieu délivre l'homme par un autre moyen que la passion du Christ, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais, si l'on se place dans une condition donnée, cela était impossible. En effet, il est impossible que la prescience de Dieu se trompe ou que sa volonté ou son plan soit annulé. Si l'on tient comme établi que la passion du Christ a été connue et préordonnée par Dieu, il n'était pas possible en même temps que le Christ ne souffre pas ou que l'homme soit libéré autrement que par sa passion. Dieu fait toujours ce qu'il y a de mieux. Dieu n'a pas de chef, il est lui-même le bien suprême et commun de tout l'univers. C'est pourquoi s'il remet le péché qui a raison de faute en ce qu'il est commis contre lui, il ne fait de tort à personne. Donc Dieu seul pouvait réparer le mal infini du péché. Article 3, la question 46, c'est un article magnifique. Cette manière de délivrer les hommes était-il la plus appropriée ? Donc certainement, vous voyez, va par étapes, il explique d'abord que Dieu étant Dieu peut tout faire et pouvait nous sauver d'une autre façon qu'il nous a sauvés. Et ensuite, il va nous expliquer qu'à cause des circonstances, il fallait qu'un être infini rattrape le péché infini des hommes. Et ensuite, maintenant, il a montré dans l'article 3 de la question 46 de la tertiaire pars que cette manière de délivrer les hommes par la souffrance de la passion était la plus appropriée. Ah, voilà cet article qui est une splendeur. Pour guérir notre misère, il n'y avait pas de moyen plus adapté que la passion du Christ. C'est une citation de saint Augustin. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Je vais lire l'ensemble du corps de l'article et l'expliquer autant que faire se peut. Un moyen d'autant plus adapté à une fin qu'il procure à cette fin un plus grand nombre d'avantages. Du fait que l'homme a été délivré par la passion du Christ, celle-ci, outre la libération du péché, lui a procuré beaucoup d'avantages pour son salut. Et donc saint Thomas va parler de 5 avantages pour le salut de l'homme que Dieu ait choisi la passion pour nous sauver. Je vous répète la thèse. Donc, pour guérir notre misère, il n'y avait pas de moyen plus adapté que la passion du Christ. Première raison, par elle, l'homme connaît combien Dieu l'aime, et par là, il est provoqué à l'aimer, et c'est en cet amour que consiste la perfection de l'homme. Ici de saint Paul, Romains, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de son humanité qui est visible et qui est possible, Dieu ne peut pas mourir, donc il fallait qu'il soit uni à une humanité pour pouvoir mourir tout en restant Dieu, et bien cette mort prouve l'immense degré d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et prouve, je vous l'ai déjà expliqué très souvent, l'immense gravité du péché. Et comme il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie avec des souffrances pareilles pour les bandits que nous sommes, eh bien, cette passion nous aide à comprendre à quel point Dieu nous aime et donc à quel point nous sommes provoqués à l'aimer en retour. Et que c'est dans cet amour de Dieu que consistera la perfection du salut de l'homme. Deuxième raison, par la passion, le Christ nous a donné l'exemple de l'obéissance, de l'humilité, de la constance, de la justice et des autres vertus nécessaires au salut de l'homme. Ici de Saint-Pierre, le Christ a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. Donc, on voit très bien que la première vertu dont saint Thomas parle à propos de la passion, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est l'humilité. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité, il n'y a pas d'humilité sans obéissance. Donc, cette obéissance jointe à l'humilité ou l'humilité jointe à l'obéissance vont permettre la constance, la justice et toutes les autres vertus nécessaires au salut de l'homme. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait obéissant à son Père et obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est Dieu et complètement innocent, a voulu mourir sur la croix, le moins des choses qu'on puisse faire, c'est accepter de mourir nous aussi à notre volonté propre et de suivre notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Troisième raison. Le Christ, par sa passion, n'a pas seulement délivré l'homme du péché, et lui en a en outre mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, rouvre les portes du paradis et permet le salut de l'homme. Quatrième raison, du fait de la passion, l'homme comprend qu'il est obligé de se garder pur de tout péché lorsqu'il pense qu'il a été racheté du péché par le sang du Christ. Selon saint Paul, vous avez été racheté à ses chairs. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. À cause du sacrifice rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, de la boucherie que fut la passion, les hommes sont obligés de se battre pour rejeter le péché à cause de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. Et enfin, la passion a conféré à l'homme une plus haute dignité. Vaincu et trompé par le diable, l'homme devait le vaincre à son tour, ayant mérité la mort, il devait aussi en mourant la dominer elle-même. Et saint Thomas cite saint Paul, 1er aux Corinthiens, « Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. » Et donc, pour toutes ces raisons, il valait mieux que nous soyons délivrés par la passion du Christ plutôt que par la seule volonté de Dieu. Ces textes sont tellement beaux qu'il faut vraiment les méditer. Donc, je vous répète les 5 raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a offert sa passion à son Père. Donc, 5 manières qui expliquent à quel point la passion du Christ était la plus appropriée des raisons de réparer le péché. Première raison, par elle l'homme connaît combien Dieu l'aime et par là il est provoqué à l'aimer. Deuxième raison, le Christ nous donne l'exemple de l'obéissance, de l'humilité et de toutes les vertus nécessaires. Troisième raison, par sa passion, il a mérité non seulement la délivrance de l'homme du péché, mais aussi la grâce de la justification, la gloire de la béatitude. Quatrième raison, l'homme comprend qu'il est obligé de se garder pur de tout péché lorsqu'il pense qu'il a été racheté du péché par le sang du Christ. Et enfin, cinquième raison, la passion a conféré à l'homme une plus haute dignité. Rappelez-vous le serment de Noël de saint Léon, « Chrétien, souviens-toi de ta dignité ». Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour les créatures que nous sommes nous donne une dignité extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ, s'il se donne la peine de mourir pour nous et donner pour nous jusqu'à la dernière goutte de son sang, c'est que l'âme de l'homme valait suffisamment cher pour être achetée de cette façon. Saint Thomas a fini cet article par une petite phrase intéressante. Ici, saint Augustin, il convenait aussi pour vaincre l'orgueil du diable, qui fuit la justice et recherche la puissance, que le Christ vainque le démon et libère l'homme, non par la seule puissance de la divinité, mais aussi par la justice et l'humilité de sa passion. Et donc ça, la puissance de la divinité regarde Dieu, la justice et l'humilité de sa passion regarde cette fois-ci l'homme, l'humanité. Article 4 de la question 46, encore un article splendide. Convenait-il que le Christ souffre sur la croix ? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Il convenait au plus haut point que le Christ souffrit la mort de la croix. Et là, saint Thomas va donner cette raison. C'est toujours très didactique, très, très bien composé. On sent qu'il a beaucoup travaillé la composition de son texte. Il convenait donc au plus haut point que le Christ souffrit la mort de la croix. Première raison, pour nous donner un exemple de vertu. La sagesse de Dieu, dit saint Augustin, assume l'humanité pour nous donner l'exemple d'une vie droite. Or, une condition de la vie droite, c'est de ne pas craindre ce qui n'est pas à craindre. Nul genre de mort ne soit à craindre par l'homme dont la vie est droite. Que nul genre de mort, pardon, ne soit à craindre par l'homme dont la vie est droite, c'est ce que nous a montré, ce que nous a montré la croix de cet homme qui entre tous les genres de mort, car entre tous les genres de mort, c'est le plus odieux et le plus redoutable. Deuxième raison pour laquelle il était bon que le Christ souffrit la mort de la croix, ce genre de mort était parfaitement apte à satisfaire pour le péché de notre premier père. Pourquoi ? Parce que le premier père, c'est Adam qui avait commis ce péché en mangeant le fruit de l'arbre interdit, contrairement à l'ordre de Dieu. Il convenait donc que le Christ, en vue de satisfaire pour ce péché, souffre d'être attaché à l'arbre de la croix comme pour restituer ce qu'Adam avait enlevé. Adam méprise le précepte de Dieu en prenant le fruit de l'arbre, mais tout ce qu'Adam avait perdu, le Christ l'a retrouvé sur la croix. Adam perd l'humanité par le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notre Seigneur est justice, notre Seigneur Jésus-Christ rend cette dignité à l'homme en crucifiant son corps sur l'arbre de la croix. Troisième raison. Le Christ a souffert sur un arbre élevé, non sous un toit, afin de purifier la nature de l'air. La terre elle-même a ressenti les effets de la passion qu'elle a été purifiée par le sang qui coulait goutte à goutte du côté du crucifié. À ce propos, à propos de ce verset de saint Jean, voilà ce qu'il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et par cette expression « fut élevé », entendons que le Christ fut suspendu entre ciel et terre afin de sanctifier l'air, lui qui avait sanctifié la terre en y marchant. Quatrième raison, par sa mort sur la croix, le Christ a préparé notre ascension au ciel. Il cite saint Jean, « Moi, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Cinquième raison, cela convenait au salut de tout le genre humain. Il cite saint Grégoire de Nice. La figure de la croix, où se rejoignent au centre quatre branches opposées, symbolise que la puissance et la providence de celui qui est suspendu se répandent partout. Il meurt en étendant les mains sur la croix, de l'une il attire l'ancien peuple, de l'autre ceux qui viennent des nations. De l'une il attire donc le peuple juif, de l'autre le peuple des gentils. Sixième raison, par ce genre de mort sur la croix sont symbolisées diverses vertus. Ce n'est pas pour rien, dit saint Augustin, que le Christ a choisi ce genre de mort pour montrer qu'il est le maître de la largeur, de la hauteur, de la longueur, de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, dont parle saint Paul. Et voilà ce texte splendide. Ici de saint Augustin. Car la largeur se trouve dans la traverse supérieure de la croix. Elle figure les bonnes œuvres parce que les mains y sont étendues. La longueur est ce que l'on voit du bois au-dessus de la terre et c'est là qu'on se tient, pour ainsi dire, debout, ce qui figure la persistance et la persévérance, fruit de la longanimité. La hauteur se trouve dans la partie du bois située au-dessus de la traverse et se tourne vers le haut, c'est-à-dire vers la tête du crucifié, parce qu'elle est la suprême attente de ceux qui ont la vertu d'espérance. Enfin, la profondeur comprend la partie du bois qui est cachée en terre et toute la croix semble en surgir, ce qui symbolise la profondeur de la grâce gratuite. Et là, vous avez cette magnifique conclusion de saint Augustin. Le bois auquel étaient cloués les membres du crucifié était aussi la chair d'où le maître enseignait. Il n'y a qu'un saint Augustin capable d'écrire des choses pareilles. Et il faut relire ces textes absolument splendides, ça nous aide à comprendre la grandeur des pères de l'Église. Les pères de l'Église avaient des lumières que nous n'avons pas. Voyez. Pour ça, tous ces modernes, ces exégètes modernes qui prétendent faire mieux que les pères de l'Église sont vraiment des minus, vraiment des petits riens du tout. Quel orgueil pour prétendre en savoir plus que les pères de l'Église, qui eux avaient des lumières extraordinaires. N'oublions pas que les premiers pères de l'Église vivaient un peu plus d'un siècle après la mort de saint Jean. Même certains ont connu saint Jean. Donc, il faut avoir ce respect pour ces pères de l'Église. C'est tout à fait logique pour le moderniste de mépriser les pères de l'Église, parce que pères de l'Église disent tradition. Les pères de l'Église parlent de la tradition. Septième raison, donc de la mort du Christ sur la croix, ce genre de mort répond à très nombreuses préfigurations. Encore un autre texte magnifique de saint Augustin. Une arche de bois a sauvé le genre humain du déluge. Lorsque le peuple de Dieu quittait l'Égypte, Moïse a divisé la mer à l'aide d'un bâton. Et terrassant ainsi le pharaon, il a racheté le peuple de Dieu. Ce même bâton de bois, donc, Moïse l'a plongé dans une eau amère qui l'a rendue douce. Et c'est encore avec un bâton de bois que Moïse a fait jaillir du rocher préfiguratif une eau salutaire. Pour vaincre Amalek, Moïse tenait les mains étendues sur son bâton. La loi de Dieu était confiée à l'arche d'alliance qui était en bois. Par là, tout s'était, comme par degré, amené au bois de la croix. Mais on voit bien comment j'ai déjà cité ce texte très souvent, le bois de la crèche amène au bois de la croix. Comme les langes qui enveloppent l'enfant Jésus dans la crèche amènent au linceul qui va entourer le corps sacré de notre Seigneur Jésus-Christ après la descente de croix. Donc je reprends, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas le texte devant eux et qui me suivent par Internet, par audio. Donc les sept raisons pour lesquelles le Christ souffre la mort de la croix. D'abord pour nous donner un exemple de vertu. Ensuite parce que ce genre de mort était parfaitement apte à satisfaire pour le péché de notre premier père, car Adam avait commis le péché en mangeant le fruit du bois de l'arbre interdit. Et donc tout ce qu'Adam avait perdu, le Christ a retrouvé par la croix. Troisième raison, le Christ fut suspendu entre ciel et terre afin de sanctifier l'air, lui qui avait sanctifié la terre en y marchant. Quatrième raison, par sa mort sur la croix, le Christ a préparé notre ascension au ciel. Cinquième raison, cela convenait au salut de tout le genre humain. Rappelez-vous l'expression de saint Jean Chrysostome, en étendant les mains, il attire l'ancien peuple d'un côté et le nouveau peuple, le peuple des gentils de l'autre. Sixième raison, par ce genre de mort sont symbolisées toutes les vertus. Le bois auquel étaient cloués les membres du crucifié étaient aussi la chair, d'où le maître enseignait. Et enfin, septième raison, ce genre de mort répond à de très nombreuses préfigurations. Donc le bois utilisé par Moïse, surtout dans la libération du peuple juif qui était tenu en esclavage chez les Égyptiens, ce bois représente le bois de la croix. Encore un article magnifique. La question 46. La question 46 est sans doute l'une des plus belles questions de la somme. Question 46, article 3 tertia part, question 46 sur la passion. Je conseille beaucoup à ceux qui ont le texte de la passion, je veux dire qui ont le texte de la somme théologique en français, d'aller lire l'intégralité de cette question numéro 46, surtout pendant la semaine sainte, ce sera une excellente opportunité. Article 3, 5 de la question 46, le caractère universel de la passion. Encore, c'est un article merveilleux. Alors voilà ce que répond saint Thomas. Selon leur genre, le Christ a enduré toute forme de souffrance. Il a enduré d'abord les souffrances de la part des hommes, les hommes qui lui ont infligé ces souffrances. Il a souffert de la part des païens, des juifs, des hommes et des femmes, comme on le voit avec les servantes qui accusaient Saint-Pierre. Il a encore souffert de la part des chefs et des serviteurs, et aussi de la part du peuple. Il a aussi été affligé par tous ceux qui vivaient dans son entourage et sa familiarité, puisque Judas l'a trahi, que Pierre aussi l'a trahi. Et il cite le psaume de David, les rois de la terre se soulèvent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Christ. Donc toutes les catégories des hommes ont participé aux souffrances infligées à notre Seigneur. Deuxièmement, le Christ a enduré ses souffrances dans tout ce qui peut faire souffrir un homme. Le Christ a souffert dans ses amis qui l'ont abandonné, dans sa réputation par les blasphèmes proférés contre lui, dans son honneur et dans sa gloire par les moqueries et les affronts qu'il dut supporter, dans ses biens lorsqu'il fut dépouillé de ses vêtements, dans son âme par la tristesse, le dégoût et la peur, et dans son corps par les blessures et les coups. Cet article est tellement beau, il faudrait le lire à genoux. Méditez-le. Dans tous les membres de son corps, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la troisième raison, a souffert aussi dans tous les membres de son corps. Le Christ a enduré à la tête les blessures de la couronne d'épines, aux mains et aux pieds le percement des clous, au visage les soufflets, les crachats, et surtout le corps la flagellation. De plus, il a souffert pour tous ses sens, par tous ses sens corporels, par le toucher quand il a été flagellé et cloué à la croix, par le goût quand on lui a présenté du fiel et du vinaigre, par l'odorat quand il fut suspendu au gibet en ce lieu appelé calvaire, rendu fétide par les cadavres des suppliciés, par l'ouïe lorsque ses oreilles furent assaillies de blasphèmes et de railleries, et enfin par la vue quand il vit pleurer sa mère et le disciple qu'il aimait, Saint Jean. On peut méditer là-dessus. Si notre Seigneur Jésus-Christ a subi des blessures à la tête, c'est pour réparer tous les péchés de l'intelligence. S'il a eu son cœur percé, c'est pour réparer tous les péchés que nous avons commis en aimant quand il ne fallait pas, et comme il ne fallait pas, et qui il ne fallait pas. Il a subi des injures et des souffrances et des blessures au visage, par les soufflets et les crachats. En réparation de toutes les fois, nous avons utilisé notre visage pour attirer des gens que nous n'avions pas le droit d'attirer. Donc il a été crucifié aux mains pour réparer tous les péchés que nous avons commis avec nos mains. Il a été crucifié aux pieds pour réparer tous les péchés que nous avons commis avec les pieds en allant dans des lieux dans lesquels un catholique n'a rien à faire. Vous voyez, c'est, je pense vraiment, enfin, ça se discute bien sûr, mais je crois vraiment que cette question 46 de la Tertia Pars est certainement une des plus belles questions de la Somme. Article 6, nous avançons. La douleur que le Christ a endurée dans sa passion fut-elle la plus grande? Encore des merveilles dans les textes de saint Thomas. Dans sa passion, saint Thomas d'abord répète, comme il le fait toujours, dans sa passion, le Christ a ressenti une douleur réelle, sensible, causée par les supplices corporels, mais aussi une douleur intérieure, la tristesse, produite par la perception de quelques nuisances. L'une et l'autre de ces douleurs chez le Christ furent les plus intenses que l'on puisse endurer dans la vie présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas possible pour un homme de souffrir plus que notre Seigneur Jésus-Christ n'a souffert pour nous. Et il va donner quatre raisons. D'abord, par rapport aux causes de la douleur. Donc, je vais vous lire l'intégralité du corps de l'article pour que vous puissiez bien le comprendre. Par rapport aux causes de la douleur. La douleur sensible fut produite par une lésion corporelle. Elle atteignit au paroxysme, soit en raison de tous les genres de souffrance dont il a été parlé auparavant, soit aussi en raison du mode de la passion. Car la mort des crucifiés est la plus cruelle. Ils sont en effet cloués en des endroits très innervés, extrêmement sensibles, les mains et les pieds. Donne comme exemple le clou qui s'enfonce dans le poignet, dans l'espace de Desto. C'est un espace qui se situe entre les petits os du massif carpien, donc les os du poignet, ce qu'on appelle le massif carpien. Il y a un trou au milieu qu'on sent avec notre doigt lorsqu'on met notre main en hyperextension. Là, vous sentez un petit trou sur la partie supérieure du poignet. Et quand on enfonce un clou dans ce trou, les os du carpe vont s'écarter sans se briser, parce que la prophétie avait dit que pas un seul de ces os ne serait brisé. Mais en enfonçant un clou dans cet espace de Destot, c'est le nom D-E-S-T-O-T, je crois que ça s'écrit, dans cet espace de Destot, quand on enfonce un clou, au fond de ce trou, il y a le nerf médian. Le nerf médian, c'est le nerf qui donne la sensibilité au doigt. C'est le nerf le plus sensible de l'organisme. Et lorsque ce clou, évidemment, pénètre dans ce trou, il va écrabouiller le nerf médian, provoquer la rétractation du pouce à l'intérieur de la paume de la main. C'est pour ça que sur le linceul de Turin, on voit les deux mains de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont posées à plat sur le bassin de notre Seigneur, et on voit pas les pouces parce qu'ils sont rétractés à cause du massacre qui a été provoqué sur le nerf médian. peu plus, dit saint Thomas, le poids du corps augmente continuellement cette douleur du crucifié. À tout cela s'ajoute la longue durée du supplice, car les crucifiés ne meurent pas immédiatement comme ceux qui périssent par le glaive. Quant à la douleur intérieure du corps, elle avait plusieurs causes. En premier lieu, tous les péchés du genre humain, pour lesquels il satisfait en souffrant, si bien qu'il les prend à son compte, en parlant dans le psaume 22 du cri de mes péchés. Puis particulièrement la chute des Juifs, son peuple élu de l'époque, de l'Ancien Testament, et de ceux qui lui infligèrent la mort, et surtout la douleur de ses disciples, qui tombèrent pendant sa passion. Enfin, la perte de la vie corporelle qui, par nature, fait horreur à la nature humaine. On dit, c'est certainement vrai, que notre Seigneur Jésus-Christ a plus souffert des chutes des prêtres que des chutes de tout genre humain. Parce que les prêtres sont les amis particuliers de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le même péché commis par un prêtre est beaucoup plus grave que le même péché commis par un laïc. Deuxième raison pour laquelle ces douleurs du Christ furent les plus intenses possibles. On peut mesurer l'intensité de la douleur à la sensibilité de celui qui souffre dans son âme et dans son corps. Or, le corps du Christ était d'une complexion parfaite, puisqu'il avait été formé miraculeusement par l'Esprit Saint. Rien n'est plus parfait que ce qui est produit par miracle. Saint Jean Chrysostome le remarque au sujet du vin dans lequel le Christ avait changé l'os, l'eau des noces de Cana. Et c'est ainsi que chez le Christ, le sens du toucher, dont les perceptions produisent la douleur, était extrêmement délicat. Son âme aussi percevait avec la plus grande acuité dans ses puissances intérieures toutes les causes de tristesse. Rappelez-vous l'âme du Christ qui est triste à en mourir pendant l'agonie au Jardin des Oliviers. Les pères de l'Église, je vous l'ai déjà dit souvent, disent que notre Seigneur a plus souffert pendant ces 3 heures d'agonie au Mont des Oliviers, alors que personne ne l'a touché encore physiquement, que pendant toute sa passion elle-même, que pendant le couronnement d'épines, la flagellation et la crucifixion. Troisième raison, l'intensité de la douleur du Christ peut ainsi s'apprécier par la pureté de sa douleur et de sa tristesse. Car chez d'autres êtres souffrants, la tristesse intérieure et même la douleur extérieure sont tempérées par la raison, en vertu de la dérivation ou rejaillissement des puissances supérieures sur les puissances inférieures. Mais chez le Christ souffrant, cela ne s'est pas produit, puisqu'à chacune de ses puissances, il permit d'agir selon sa loi propre. Quatrième raison, on peut enfin évaluer l'intensité de la douleur du Christ après le fait que sa souffrance et sa douleur furent assumées volontairement en vue de cette fin, libérer l'homme du péché. Et c'est pourquoi il a assumé toute la charge de douleur qui était proportionnée à la grandeur, au fruit de sa passion. Toutes ces causes réunies montrent à l'évidence que la douleur du Christ fut la plus grande. C'est un petit détail de la providence, mais le bon Dieu sait ce qu'il fait, encore une fois, je n'ai pas fait exprès. Mais j'explique cette passion entre Seigneur à partir du texte de saint Thomas, la question 46 de la Tertia Pars, et cette conférence que je vais mettre en ligne sur Internet. En fait, elle est destinée pour le 19 avril. J'en mets une par semaine. Là, je mets en avance parce que je vais être très occupé, je n'ai pas le temps de les faire. Mais le 19 avril, le jour pour lequel en principe est fixée cette conférence, c'est le Vendredi Saint. Oui, j'ai pas fait exprès, mais devant Dieu, encore une fois, c'est ce qu'il fait. Donc je répète les 4 raisons pour lesquelles les douleurs du Christ furent les plus importantes possibles. D'abord par rapport à la cause de la douleur, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup plus souffert que les autres à cause de son corps, si vous voulez, beaucoup plus sensible que les autres corps humains à cause de sa noblesse. Puis la douleur intérieure du cœur, pas simplement pour tous les péchés des hommes, mais surtout les péchés de ses disciples. Deuxièmement, on peut mesurer l'intensité de la douleur et la sensibilité de celui qui souffre dans son âme et dans son corps. Et encore, chez le Christ, le sens du toucher était extrêmement délicat. Troisième raison, l'intensité de la douleur du Christ peut s'apprécier par la pureté de la douleur et de sa tristesse. Et enfin, quatrième raison, on peut enfin évaluer l'intensité de la douleur du Christ après le fait que sa souffrance et sa douleur furent assumées volontairement en vue de cette fin, libérer l'homme du péché. Toutes ces causes réunies, conclusion de saint Thomas, montrent à l'évidence que la douleur du Christ fut la plus grande. Oui, il faut relire, réécouter ces magnifiques commentaires de saint Thomas d'Aquin. Quel grand saint! Il y a encore une phrase magnifique dans ce même article, donc cet article 6. Il conclut l'article par réponse à la sixième objection. Voilà ce que dit saint Thomas. Le Christ a voulu délivrer le genre humain du péché, non seulement par sa puissance, mais encore par sa justice. C'est ainsi qu'il a tenu compte non seulement de la puissance que sa douleur tirait de l'union à sa divinité, mais aussi de l'importance qu'elle aurait selon la nature humaine pour procurer une si totale satisfaction. Seul Dieu pouvait satisfaire pour le péché. Il reste quelques minutes, je vais avancer avec l'article 7. Toute l'âme du Christ a-t-elle souffert dans sa passion? Tertia pars, question 46, article 7. Saint Thomas dit bien, le Christ a souffert selon toute son âme. Donc lorsque le corps du Christ souffrait, allait être séparé de l'âme, toute son âme en souffrait. La raison supérieure dont le Christ n'a point pâti de la part de son objet qui est Dieu, car Dieu n'était pas pour l'âme du Christ une cause de douleur, mais de délectation et de joie. Cependant, n'oublions pas, je vous l'ai déjà expliqué, que malgré le fait que l'humanité était unie à la divinité, l'humanité étant parfaite en notre Seigneur Jésus-Christ, elle souffrait même si elle jouissait de la vision béatifique. C'est là un grand mystère. Mais justement, voilà l'article 8, on va avoir le temps d'avancer un petit peu, parce que je ne veux pas dépasser une heure de cours, pas trop fatiguer les auditeurs. Question 46, article 8. Sa passion a-t-elle empêché le Christ d'éprouver la joie béatifique, donc la vision béatifique? La réponse est toute simple. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu, même quand il souffre sur la croix. Donc il a toujours la vision béatifique, puisqu'il est Dieu. Et qu'il y a l'union dans cette personne du Christ, de l'humanité, de la divinité. Voilà ce que dit saint Thomas. La jouissance qui était propre à l'âme du Christ en tant que bienheureuse n'a pas été empêchée par sa passion. Lorsque le Christ était pèlerin sur cette terre, il n'y avait pas de rejaillissement de gloire de la partie supérieure de son âme sur la partie inférieure et de l'âme sur le corps. Mais réciproquement, la partie supérieure de l'âme du Christ n'était pas entravée dans son opération propre par la partie inférieure. Il en résulte qu'elle a joui parfaitement de la vision bienheureuse, tandis que le Christ souffrait. Dieu a voulu bloquer, en quelque sorte, l'aide surnaturelle qui était reçue de la vision béatifique. Il a voulu bloquer les effets de cette vision béatifique sur lui pour être sûr de pouvoir souffrir au maximum. Article 9. Le temps de la passion. Donc ici, saint Augustin, le Sauveur a accompli toutes choses au lieu et au temps approprié. Et donc la passion est arrivée au temps voulu par notre Seigneur Jésus-Christ, quand c'était le temps voulu par lui. Le Seigneur voulut racheter et restaurer le monde par sa passion à l'époque même où il l'avait créé, c'est-à-dire à l'équinoxe. Et c'est à cette saison que le monde a commencé, c'est alors que le jour augmente par rapport à la nuit, car par sa passion, le Seigneur nous a conduits des ténèbres à la lumière. Le Christ a voulu subir sa passion dans sa jeunesse. Et saint Thomas va donner trois motifs. Il analyse les circonstances de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc trois motifs de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa jeunesse. 33 ans, c'est l'âge parfait. Premièrement, pour mettre davantage son amour en valeur, parce qu'il a donné sa vie pour nous dans l'état le plus parfait. Deuxièmement, parce qu'il ne convenait pas qu'apparaisse en lui une diminution physique. Et enfin, troisièmement, pour montrer en lui par avance, en mourant et ressuscitant dans sa jeunesse, la nature que posséderont les corps après la résurrection. On le voit dans certaines expressions, par exemple, quand on apprend la mort d'un jeune homme, par exemple, de 21 ans, bon, eh bien, on en souffre plus d'une certaine façon. quand même qu'il est bien jeune pour mourir. Si au contraire on apprend la mort d'un vieillard de 99 ans, on dit, bon, c'est un bel âge pour mourir, même si on en souffre, c'est surtout si c'est une personne qu'on connaissait bien, qu'on aimait. Mais il est plus normal pour un vieillard de 99 ans de mourir que pour un jeune homme de 21 ans de mourir. Et alors, je continuerai plus tard parce que je n'ai pas le temps de finir complètement cette question. Donc, je m'arrête à l'article 10 de la question 46. Donc, je conseille beaucoup, encore une fois, pour le temps du Vendredi Saint et du Samedi Saint avant la messe de minuit, avant la messe du soir du Samedi Saint. Donc, à ceux qui ont le texte de saint Thomas d'Aquin chez eux en français, eh bien, allez lire le texte complet. Et vous pouvez l'avoir aussi sur Internet. Tapez Somme théologique de saint Thomas en latin, en français, vous l'avez. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.